RFI, il est 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
On est ensemble pour les 30 prochaines minutes, on fait le tour de l'actualité française.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, un 11 novembre de commémoration, 106e anniversaire de l'armistice de 1918. Emmanuel Macron était sous l'arc de triomphe, le Premier ministre britannique était également présent. On reviendra sur la cérémonie, mais aussi sur l'entretien entre Keir Starmer et le président français, sur fond de guerre en Ukraine notamment. Dans l'actualité française également, l'examen du budget 2025 se poursuit. La question des hausses d'impôts pour réduire les déficits est notamment au centre de l'attention, alors que des fermetures de sites industriels sont annoncées. Et puis de la musique, Alain Souchon, c'est dans un Tour de France qu'il se lance, un Tour de France d'une centaine de dates jusqu'au printemps prochain, à suivre en fin de journal.
RFI.
Ce 11 novembre était placé sous le signe de la mémoire. C'est le 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale cette année. Les commémorations ont eu lieu, comme tous les ans, à Paris, sous l'Arc de Triomphe, en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron. Des commémorations placées cette année sous le signe de l'amitié avec le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, était présent d'ailleurs. Et dans la foule, plusieurs Britanniques étaient également présents à Paris pour assister aux commémorations. Plus d'un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, quel est le sens qu'ils accordent à l'amitié entre la France et le Royaume-Uni? C'est une question posée par notre reporter Baptiste Coulon. Reportage.
God Save the King, chanté par le chœur de l'armée française sous l'Arc de Triomphe, l'amitié franco-britannique célébrée à l'occasion des 120 ans de l'entente cordiale entre les deux pays, sous l'œil de Matt, originaire d'Oxford au Royaume-Uni.
Nous sommes amis avec la France. On est alliés, on se soutient, c'est très important. Quand on voit la situation en Europe, aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, on se dit que plus on est soudés, plus on a de chances de maintenir et même de renforcer encore cette alliance.
Une amitié qui a aussi connu quelques passages à vide. Alena est étudiante à Paris.
J'étais encore enfant quand le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens constatent que cette décision a cassé des liens d'amitié que nous avions avec nos voisins et nos amis.
Alors être présent ici à Paris, c'est à la fois un acte de mémoire et une façon de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir.
Je pense qu'il est aussi important de célébrer les amitiés que nous avons maintenant que de se rappeler à quel point ces amitiés sont difficiles à gagner. Il suffit de regarder le nombre de victimes en Ukraine, qu'elles soient ukrainiennes ou russes, pour s'en rendre compte. Quelque chose de différent et d'alternatif est plus que souhaitable. Mais je pense que nous échouons en ce moment. La communauté internationale peut mieux faire.
La cérémonie s'achève par une accolade entre Emmanuel Macron et Keir Starmer. Tous deux repartent dans leurs convois respectifs.
Reportage à Paris signé Baptiste Coulon. Et le président français Emmanuel Macron a donc commémoré ce matin sous l'Arc de Triomphe cet anniversaire de l'armistice. Le chef de l'État était accompagné du Premier ministre britannique, je vous en parlais. Et la flamme ravivée était donc placée sous le signe de l'amitié franco-britannique, mais aussi de l'Ukraine. Pourquoi? Eh bien parce que l'aide à Kiev était au menu de l'entretien bilatéral entre le Premier ministre britannique et le président français. On y revient avec Franck Alexandre.
Avec le retour de Donald Trump, Britanniques et Français font le même constat. L'Amérique ne sera plus un partenaire fiable pour aucun pays européen. Contrairement au nouveau président américain, Londres et Paris jugent essentiel de continuer à soutenir l'Ukraine pour protéger le continent européen dans son ensemble. L'Europe, qui depuis bientôt 3 ans est le premier pourvoyeur d'aide à l'Ukraine avec 118 milliards d'euros, tandis que les États-Unis ont fourni 85 milliards d'euros, précise l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Keir Starmer a déclaré à plusieurs reprises que l'engagement du Royaume-Uni, soit 3 milliards de livres par an, serait irréfutable, mais un retrait américain, qu'il soit financier ou militaire, sera difficile à compenser, disent les experts, notamment dans le domaine des armes de précision, les missiles tactiques. Il faut donc, dans l'urgence, échafauder des plans pour partager les coûts, à la fois pour l'Ukraine et l'OTAN, face à une Russie toujours plus agressive. La Grande-Bretagne et l'Union européenne devrait entamer très prochainement des négociations sur un pacte de sécurité post-Brexit.
Les précisions de Franck Alexandre. On va prendre la direction de l'Azerbaïdjan. Le coup d'envoi de la COP29 a été donné ce lundi à Bakou, la plus importante des conférences climatiques de l'année et qui aura lieu en l'absence de nombreux dirigeants étrangers et notamment du président français. Alors comment expliquer l'absence d'Emmanuel Macron? Eh bien notamment par la dégradation brutale des relations entre la France et l'Azerbaïdjan depuis 2018. 2020 et la défaite militaire infligée par l'Azerbaïdjan à l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh. De son côté, Bakou accuse la France d'avoir pris parti pour l'Arménie et permis les mesures de rétorsion prises par l'Azerbaïdjan. Il y a le soutien très démonstratif au mouvement indépendantiste anti-français, en particulier en Nouvelle-Calédonie. Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie et directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, nous partage son analyse.
Il y a une tradition à Bakou, vous vous souvenez peut-être du congrès des peuples colonisés en 1920 à Bakou, hein, pour essayer de monter du temps des soviétiques, des bolcheviks à l'époque, les pays colonisés contre les colonisateurs. Donc cette tradition a été réactivée, sans aucun doute à l'initiative de Moscou, pour des raisons liées à la guerre en Ukraine. Et donc Bakou est redevenu en quelque sorte le centre des mouvements décolonisateurs, surtout à l'égard de l'Occident et en particulier à l'égard de la France. En fait, c'est ciblé sur la France.
Mais concrètement, comment se traduit ce soutien au mouvement indépendantiste, par exemple, de Nouvelle-Calédonie ?
Les indépendantistes ont été invités à Bakou. Ils ont été encouragés. Probablement, ils ont dû recevoir de l'argent aussi. Donc, tout ce qu'on peut faire pour, semer un peu la pagaille dans le camp adverse. En tout cas, ça a été vraiment le point de focalisation de l'antagonisme entre l'Azerbaïdjan et la France.
Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, des propos recueillis par Daniel Vallot. Une visite diplomatique ce mardi à l'Élysée. Emmanuel Macron va recevoir le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, alors que l'élection de Donald Trump aux États-Unis fait craindre un désengagement américain de l'Alliance Atlantique et d'un arrêt du soutien de Washington à l'Ukraine, on le mentionnait tout à l'heure. Ce sera la première rencontre entre le président français et le secrétaire général depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête de l'OTAN le 1er octobre dernier.
24 heures en France.
L'examen du budget 2025 se poursuit avec cette question. Que va-t-il se passer au Parlement cette semaine ? Pour le gouvernement, il y a notamment l'épineuse question des hausses d'impôts pour réduire les déficits, alors que les annonces de fermeture de sites industriels se succèdent et avec elles la perspective de nombreux licenciements, comme chez Michelin. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, craint une saignée industrielle et la disparition de 150 000 emplois. Politique fiscale, réindustrialisation, baisse du chômage, les piliers de l'action économique d'Emmanuel Macron vacillent. On en parle avec Valérie Gasse.
Depuis la dissolution, rien ne va plus et surtout pas le bilan économique d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait nommé un premier ministre de droite pour éviter l'application du programme du nouveau Front Populaire et la valse promise des taxes qui aurait, jugeait-il, plombé la compétitivité des entreprises et entravé la baisse du chômage, présentée comme sa principale réussite. Mais la nomination de Michel Barnier à Matignon n'a pas préservé Emmanuel Macron d'une atteinte à ce qu'il avait érigé en dogme, le refus des hausses d'impôts. Contraint par le dérapage des déficits publics, le Premier ministre a présenté un budget qui taxe les plus riches et les entreprises. L'annonce récente de fermeture de sites industriels et la perspective de nombreux plans sociaux en 2025 est venue attaquer un autre totem, celui de l'efficacité de la politique de réindustrialisation en faveur de l'emploi. Un macroniste de la première heure essaie de défendre le bilan et affirme que c'est la première fois depuis 40 ans qu'on ouvre plus d'usines qu'on en ferme, mais concède, les deux prochaines années vont être difficiles, on a trop protégé les Français, comme pour dire que le plus dur reste à venir.
Valérie Gasse, un peu de musique avec le chanteur Alain Souchon. Il s'est lancé dans un tour de France d'une centaine de dates jusqu'au printemps prochain, accompagné sur scène à la guitare et au piano par ses deux fils. Il interprète ses plus grands succès à partir de ce mardi et pour une dizaine de soirs, le trio fait étape au Casino de Paris. On en parle avec Edmond Sadaka.
Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses à bijoux.
Depuis 5 ans, Alain Souchon n'a pas sorti d'album. Ses deux fils, Pierre et Charles, avaient étroitement collaboré au dernier disque, I'm 50s, paru en 2019. Il était donc logique de voir le trio réuni maintenant sur scène. Le résultat, c'est 2 heures de spectacle où le public peut redécouvrir, en mode acoustique et très dépouillé, la plupart des tubes du chanteur.
Abderrahman, Martin, David... Et si le ciel était vide ?
Alain Souchon aime raconter que cette tournée en famille lui était prescrite très sérieusement par son médecin traitant alors qu'il éprouvait un petit coup de fatigue.
Il m'avait donné une ordonnance en me disant « Oui, bon, parce que vous avez, je vois ce que vous avez, il faut que vous partiez en tournée avec vos enfants. » Alors, c'est marqué sur l'ordonnance. Donc, on fait un métier, on a de la chance. La Providence nous fait chanter tous les soirs devant des gens qui nous applaudissent.
Le trio Souchon propose tous les soirs un spectacle où la complicité et l'humour accompagnent des photos et des vidéos de famille. Et tout cela semble apporter une nouvelle jeunesse à celui qui a soufflé en mai dernier ses 80 bougies.
Caresse photographiée sur ma peau sensible. On peut toucher les instants, les photos. C'est libre. Il y a toujours le papier collant transparent. Remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiches. On a monté le ménage, le bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait, les morceaux de fer qui coupent et ça saigne. La voilà sur le carrelage, la porcelaine. Nous, nous, on n'a pas tenu le coup.
Alain Souchon, 24 heures en France continue. Restez avec nous.
24 heures en France. Juliette Pietraszewski.
RFI, il est 23h11 à Marseille où on va rester pour le reportage qui arrive. Le 7 novembre dernier, le Parlement a voté une loi dite Airbnb pour mieux encadrer les meublés de tourisme. Ces logements sont en partie responsables de la crise de l'immobilier, notamment dans les villes ou les régions touristiques. Ce chiffre, pour vous donner un peu de contexte, en 2023, 2,5 millions de Français attendaient un logement social et 4 millions étaient concernés par le mal-logement. À Marseille, l'équipe municipale a donc décidé de prendre le taureau par les cornes pour limiter les meublés touristiques. Une brigade est chargée de supprimer toutes les boîtes à clés dans l'espace public. Sophie Bourlet.
Dans le quartier du Panier à Marseille, trois hommes de la régie municipale sont en train de scier une boîte à clés à l'aide d'une disqueuse. Elle était accrochée sur une rambarde d'escalier en mobilier urbain public.
On a un papier avec tant de boîtes à clés à découper, c'est pas nous qu'on décide. Puis il y a une date, c'est-à-dire qu'ils ont 15 jours les personnes pour pouvoir les enlever eux-mêmes. Si d'ici 15 jours, ils ne les ont pas enlevés eux-mêmes, on est obligé de passer et de les enlever.
Ces boîtes à clés permettent d'accéder aux locations sans passer par une remise en main propre. Dans le centre-ville, elles sont partout, près d'un logement sur 10 et dédiées au tourisme. Patrick Amico est l'élu de la ville, responsable du logement. Il veut aller plus loin qu'une simple chasse à la boîte à clés.
Nous allons, nous, mettre en place des dispositifs dès le début de l'année qui vont extrêmement limiter la capacité à installer ces résidences secondaires sans compensation par la création de logements familiaux. Parce qu'on a pu constater que sur un an, par exemple, on a perdu 2100 logements familiaux au profit des résidences pour le tourisme. Dans une situation de crise extrêmement importante du logement sur Marseille, vous imaginez bien que cette situation ne peut pas durer.
Une rue plus loin, Jordan était assis en terrasse. Il est venu en week-end à Marseille. Ce Lyonnais a choisi de louer un Airbnb moins cher qu'un hôtel. Pourtant, il comprend les mesures de la mairie.
Pour le vivre dans la ville où je vis actuellement, elle se vide de ses habitants et c'est que des touristes. Et puis ça se ressent dans les commerces parce que c'est soit que des restaurants ou alors ça ferme ou alors des boutiques de touristes. Et c'est une part de l'âme de la ville qui se perd.
Pour les habitants, la cohabitation est parfois pénible. Abel, 72 ans, vit au Panier depuis 25 ans.
Il faudrait les annuler complètement. Et ils foutent un bordel quand ils y sont et ils s'en foutent de tout. Ils n'ont pas le respect du voisinage.
Une nouvelle loi dite Airbnb a été votée par le Parlement. Elle encadre les usages dans les copropriétés et diminue les exonérations fiscales des meublés de tourisme. Mais pour les propriétaires, il reste plus avantageux de louer à des touristes plutôt qu'à des habitants. Auguste Lafont est président du syndicat des propriétaires des Bouches-du-Rhône.
Je ne pense pas que ça fasse une révolution. La grande réforme, c'eût été de dire « bon, on peut faire l'un ou l'autre et la fiscalité est la même ».
Une situation qui ne favorise pas l'offre de logements longue durée. À Marseille, le maire Benoît Payan souhaite mettre en place la réglementation la plus stricte de France. Sophie Bourlet, Marseille, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr. RFI, il est 9h14 à Nouméa.
Le journal des Outre-mer.
Journal présenté par Alex Léveillé. On démarre ce journal en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Alex.
Madame, monsieur, bonsoir. Le tribunal jugera en avril prochain 7 personnes pour des menaces de mort à l'encontre de la famille Metzdorf, dont le député de la première circonscription de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf, et son père. Les précisions du procureur de la République, Yves Dupas.
Nous avons déféré vendredi soir 7 personnes. Elles sont convoquées à une audience du 25 avril. Elles ont été placées sous contrôle judiciaire avec un certain nombre de mesures, notamment une interdiction de paraître aux abords et sur les propriétés de la famille Metzdorf à Poya. Ces mesures, avec une interdiction de tout contact avec les victimes, elles visent effectivement à garantir que les actes envisagés par ces prévenus ne se passent pas, en tout cas comme ils l'entendaient, c'est-à-dire de se déplacer sur les propriétés le 11 novembre. Et donc, bien évidemment, ce sont des mesures qu'ils doivent respecter de manière très stricte. À défaut, une interpellation pourrait intervenir pour non-respect de ce contrôle judiciaire.
Le procureur de la République de Nouvelle-Calédonie, Yves Dupas, était au micro de Julie Straboni de Nouvelle-Calédonie, la première. La 4e édition de Carton Rouge a eu lieu dimanche au Port, manifestation organisée par l'association Le Séville qui lutte contre les violences intrafamiliales à La Réunion. L'objectif de cette journée de sensibilisation, déconstruire les stéréotypes autour des violences et des inégalités hommes-femmes. Pour rappel, La Réunion est le 5e département le plus touché en France par ce fléau. 20 féminicides recensés depuis 2015. Le reportage de Nabanine Rivière de Réunion, la première.
6 équipes de foot s'affrontent sur le terrain, des matchs mixtes, dans l'espoir de sensibiliser les hommes aux violences faites aux femmes et à l'inégalité entre les genres, qui débutent souvent dans les cours de récréation.
Pour moi, c'est une bonne chose, vu qu'il y a beaucoup de discrimination entre les hommes et les femmes. Ben là, ils permettent d'avoir une cohésion par rapport à tout ça, comme qu'on a pas d'inégalité hommes-femmes.
Ils permettent aux filles de s'améliorer aussi et de s'adapter sur le rythme des garçons.
Au-delà de l'aspect sportif et rassembleur, c'est surtout la volonté de sensibiliser et d'agir auprès du grand public qui émerge de cet événement. Sylvie Leroux, animatrice pour l'association Chance Égale.
On sait que la violence prend racine dans le fait qu'on n'éduque pas les filles et les garçons de la même façon. Et donc, en l'occurrence, si on ne déconstruit pas dès le plus jeune âge, bon, on aura toujours en effet un principe de domination-soumission et donc en fait des violences.
En 2023, 1500 personnes étaient accompagnées par la RAJUFA, soit 45% de plus qu'en 2022. Jeanne Docteur, présidente de l'association Garde l'Espoir.
On ne veut pas justement lâcher ces femmes-là. Et c'est vrai que ce n'est pas simple à La Réunion. Il y a un très gros problème de logement. De pouvoir avoir un endroit où mettre ces victimes avec leurs enfants à l'abri. On en a des studios appartements sur Saint-Denis, sur Saint-Louis, un petit peu sur Saint-Paul. Mais malheureusement, ils sont pleins.
En 2023, plus de 3500 affaires judiciaires pour violences conjugales ont été enregistrées sur le territoire.
Et direction la Martinique avec cette action de sensibilisation qui a eu lieu dimanche dans le sud de l'île pour dire non à l'implantation de nouveaux centres commerciaux. Christine Cupit de Martinique, la première.
Gare routière de Carrère à Ducos, prise de parole de Garcin Malsa avant le départ du convoi contre les inégalités. Plusieurs dizaines de véhicules font partie du cortège. Premier arrêt à quelques mètres du rond-point de Carrère où il est prévu l'implantation d'un centre commercial. Un collectif de riverains s'oppose à ce projet. Marcel Lienafa.
L'impact économique, c'est vis-à-vis des petits commerces en fait qui sont à Ducos et ça va les impacter directement puisque c'est leur clientèle qui va être récupérée et à terme, c'est leur mort définitive en fait.
Commune du Saint-Esprit, quartier L'Avenir, la problématique est la même qu'à Ducos, avec un projet de construction d'un centre commercial dans une zone boisée et protégée. Miguel Duval.
Il y a un manque de terrain pour la canne. Il y a des champs de canne à côté, pourquoi ne pas justement créer de l'expansion en plantant de la canne plutôt que de faire cette destruction.
Les jeunes agriculteurs aussi font partie du convoi. Ils considèrent qu'un centre commercial de plus, c'est moins d'emplois pour le secteur agricole. Géric Vénitus.
Nous, on a besoin de terre et on ne nous donne pas de terre. Pour nous, les agriculteurs, pour augmenter la production locale.
Après le Saint-Esprit, direction le Vauclin.
Comment on peut dire que les gens qui sont entrés pour aller derrière pour là, qu'est-ce que ces commerces-là?
Les travaux pour le futur centre commercial du Vauclin ont déjà bien avancé, situé juste à l'entrée du bourg, en face de la station.
Christine Cupid de Martinique, la première, et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Bonsoir Alex, merci beaucoup.
Le conseil santé avec Sumo Assurance.
Quel est l'impact de l'hypertension artérielle sur la santé des reins? Dans environ 50% des cas, l'insuffisance rénale est causée par le diabète ou l'hypertension artérielle du patient. On en parle plus dans le détail avec le professeur Gilbert Deray, néphrologue, professeur honoraire à Sorbonne Université, auteur de l'ouvrage « Les pouvoirs extraordinaires du rein » aux éditions Fayard. Une interview signée Caroline Paré.
Professeur Gilbert Deray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes néphrologue. Quel est le lien entre le rein et la pression artérielle?
Alors, le rein, c'est un organe, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui ne fait pas que du pipi. C'est un organe très sympathique, très intelligent et très généreux. Et entre autres, c'est l'organe qui contrôle la pression artérielle. Alors, il le contrôle de plusieurs façons. La première, c'est que le rein est responsable de l'élimination du sel. Et que le sel est impliqué dans l'hypertension artérielle. Vous savez que si on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel, ça favorise l'hypertension artérielle. Puis la deuxième raison, c'est que le rein va être en fait à la clé, à la source du contrôle d'un système hormonal, on va pas trop le détailler, hein, mais qui est responsable de la constriction des artères. Si donc ce système hormonal est trop stimulé, ce qui est le cas quand on a le rein malade, alors vous allez avoir une hypertension artérielle. Et d'ailleurs, quand on a une maladie rénale, le plus souvent, on est hypertendu.
Et précisément, c'est donc un facteur majeur de risque d'insuffisance rénale. En fait, si on vous écoute bien, ça joue dans les deux sens.
Exactement, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux qu'il faut briser. Quand on a une maladie rénale, on devient hypertendu. Et l'hypertension artérielle, c'est un risque d'insuffisance rénale, puisque ça va vous abîmer vos artères. Le rein est l'organe le plus vascularisé de l'organisme. Est-ce que vous savez combien vous avez de kilomètres d'artères dans vos reins?
Allez-y.
8000 kilomètres.
Ça fait long.
C'est le principe de la pelote de laine. Donc vous imaginez que quand vous allez abîmer vos artères, le rein est en première ligne. Le rein, c'est une sentinelle hein, qui vous donne votre état de santé. Donc oui, il est absolument crucial, si on est hypertendu, de vérifier son rein. Il est absolument crucial de normaliser sa pression artérielle avec des traitements. Il est absolument crucial, quand on a une insuffisance rénale, de vérifier si on est hypertendu et de la traiter.
Merci professeur Deray, c'était très clair. Vous avez signé l'ouvrage « Les pouvoirs extraordinaires du rein » publié aux éditions Fayard. Tout à l'heure, coup de projecteur sur les groupes de parole. Parler, écouter, échanger pour se soigner. Comment se déroulent ces discussions autour des problématiques de santé commune? Quelles affections sont concernées? Quels peuvent en être les bienfaits pour les patients comme pour l'entourage? On se retrouve à 9h10 temps universel.
Le conseil santé avec Caroline Paré. Et on termine 24 heures en France avec de la musique. Notre invitée culture, la chanteuse Sarah Lenka, elle vient de sortir ce 8 novembre un nouvel album intitulé Isha, qui signifie femme en hébreu. Les mélodies et les textes sont écrits en anglais et racontent son histoire familiale marquée par l'exil et le déracinement. Sarah Lenka est l'invitée d'Edmond Sadaka.
You drive her crazy, you drive us crazy, why?
Bonjour Sarah Lenka.
Bonjour.
Ce disque, il raconte votre histoire familiale, une histoire faite d'exil très souvent. Comment est née l'idée de cet album?
J'avais envie d'écrire sur le déracinement. Et après, je me suis dit, tiens, les femmes de ma famille, je connais pas leur histoire. J'ai commencé à aller faire un travail presque ethnologique dessus, sur leur exil, sur l'Algérie. Plus je composais, plus je comprenais que chaque chanson allait être un voyage un peu à travers la vie d'une de ces femmes.
Don't be ashamed when you walk through the crowd. Please hold your head up when you're walking down. I found you here when you were never there.
Qu'est-ce qu'elles ont finalement en commun, toutes ces femmes?
Elles ont en commun d'avoir eu des destins un peu dignes de contes. C'était des femmes qui avaient beaucoup de courage, qui ont porté leur famille. Surtout, on a peu parlé d'elles après. C'est-à-dire que les générations arrivées à la mienne, je ne connaissais pas leur vie. Et je me suis dit, en fait, l'exil coupe la transmission qu'elles auraient pu nous donner.
Ce thème de l'exil, dans les familles, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, quelquefois.
Il est vraiment mis sous silence. C'est-à-dire qu'il y a le silence des mots, le silence de l'histoire, le silence de ses racines. C'est comme s'il faut faire table rase du passé et venir rechercher tout ça. Ouais, c'est un peu briser le silence familial.
Parmi les titres de l'album, il y a Mouma, histoire singulière, là encore.
Ouais, alors Mouma, j'ai appris que c'était mon arrière-grand-mère, il n'y a pas si longtemps, qui était Miss Constantine, une femme qui a été encensée par la famille de son mari, puis complètement déshéritée. Et elle s'est retrouvée avec 9 enfants, l'exil, à porter tout ça, et seule, comme une reine déchue.
ce disque, vous effectuez une sorte de virage sur le plan vocal. Vous étiez beaucoup plus dans le chant jazz il y a quelques années.
C'est vrai que la porte ouverte, en tout cas ma carrière de chanteuse, c'était le jazz. Après, il y avait toujours cette fibre un peu folk. Et ensuite, comme je parle d'où je viens, et comme ma famille vient d'Algérie, forcément, ça vient teinter ce côté folk, plus musique du monde, et un peu plus éloigné des standards de jazz. Mais par contre, on n'est pas éloigné dans le thème. Mon but, c'était de trouver une voix qui était plus naturelle. Et je pense que même aujourd'hui, si je devais refaire des standards de jazz, je le chanterais de manière plus, peut-être plus juste.
Alors, toutes ces chansons sont écrites en anglais. Pourquoi ce choix de la langue anglaise?
Il est simple. Moi, j'ai une culture très anglo-saxonne musicalement. J'ai fait mes études à Londres. J'ai habité là-bas 5 ans. J'ai été baignée dans que ce soit du rock, folk, musique du monde, très éloignée de la chanson française. Et si je devais écrire en français, ce serait une autre musique peut-être. Je ne ferme pas du tout la porte à écrire en français, voire à chanter en français. On verra.
Merci Sarah Lenka.
Merci à vous. She never thought of us. I wanted to hold your head when you were always scared. All those nights bothering her when I was scared to death that you might run away. Don't be so shy, don't raise your head high. You never thought I'd be the one to hold your head when you sigh.
L'invité culture, Sarah Lenka avec Edmond Sadaka. 24 heures en France, c'est terminé. Merci à Maël Guillot à la technique, Benoît de Solmignac à la rédaction en chef, Yasmine Boulon à la note. Vous avez rendez-vous avec Mathis Slimano qui sera aux commandes des journaux de la nuit. Et dans un instant, la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur un nouveau record à 44 293, un gain de 304 points. L'indice du Nasdaq s'offre 12 points et termine à un autre record, 19 299. Le mouvement de hausse déclenché par l'élection très large de Donald Trump se poursuit. Des valeurs censées profiter des politiques de déréglementation promises par le candidat populiste ont encore le vent en poupe, à commencer par des valeurs bancaires, non seulement de grands acteurs de Wall Street comme JP Morgan Chase ou encore Goldman Sachs, mais aussi des banques régionales, PNC Financial, Comerica par exemple. On voit l'administration Trump se montrer plus souple dans les normes, notamment de fonds propres, exigées des grands établissements. Le cours de Tesla poursuit son envolée. Le patron et fondateur du constructeur automobile est devenu un proche de Donald Trump ces derniers mois. Cette alliance est jugée bénéfique, aux yeux, en tout cas, des actionnaires de la société. Les crypto-monnaies s'envolent dans cette euphorie. Le Bitcoin gagne encore quelques 10%, établissant un nouveau record à près de 87 000 dollars. L'or, en revanche, subit des dégagements. Le soulagement que l'élection américaine ait été rapidement décidée joue un rôle dans ces dégagements, mais aussi la hausse du dollar, une hausse qui non seulement pénalise le métal fin, mais également d'autres matières premières, l'argent, le platine, le cuivre par exemple. Le baril de pétrole chute de plus de 3% et revient à un peu plus de 68 dollars. L'euro tombe à 1,0655, son plus bas niveau depuis 6 mois. Le Dow Jones gagne encore 0,7%, établissant un nouveau record. Record aussi pour le Nasdaq, qui grappille moins de 0,1%.
Merci Pierre-Yves Dugas.
RFI, la sélection du mois.
Les frères Timal. Luigi.
Hey, t'es bi, tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je...
Je n'ai jamais vraiment aimé comment s'habille ton petit ami. Avec eux quand
RFI Musique.
On sera toujours heureux. Tant qu'on leur donne beaucoup, qu'on se contente de peu.